Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Un ami prêtre qui le connaît bien dit de lui qu'il est du style à préférer les grands espaces aux lieux confinés, la poésie des pâtures aux discours académiques, la franche et respectueuse amitié des bergers, aux manières compassées et aux relations intéressées. Bernard Berthuis, originaire des plateaux de l'Aubrac, prêtre du diocèse de Toulouse, a fêté récemment son jubilé d'or. 50 ans de service, dirait-il tout simplement. Lui qui aime la vie simple, l'évangile brut, dans sa nouveauté, sa radicalité et sa tendresse, rencontre. Cette émission Vivante Église, portrait et en partie hommage, puisque vous êtes aussi le fondateur de la radio, de Radio Présence, Bernard Berthuis, une vie de prêtre. Vous êtes donc prêtre du diocèse de Toulouse et actuellement curé de la paroisse Saint-Nicolas. Bonjour.
Bonjour.
On va donc parcourir, on va dire, votre vie. Alors c'est un exercice bien délicat, hein. Le pape François a l'habitude de dire, je crois que toute vie est comme une terre sacrée. Donc avoir la prétention, en préparant cette émission en 3 heures, de pouvoir parler de votre vie, c'est un sacré défi. Mais on va essayer de faire cela. Et en partie, non seulement, on va dire, au regard de ce que Radio Présence vous doit, mais suite à la publication donc d'un petit livre, Chemin buissonnier en écriture, qui est une compilation d'un certain nombre de vos homélies, qui a été faite, si j'ai bien compris, par vos paroissiens pour vous fêter ou pour fêter cet anniversaire que je citais en introduction. Bernard Berthuis, est-ce que vous vous retrouvez dans les quelques mots de cet ami prêtre? Est-ce que vous préférez les grands espaces aux lieux confinés? Vous avez dû être un peu malheureux à Toulouse alors, non? C'est...
Un tout petit peu, oui, malheureux, oui. Mais quand on rencontre les gens, on trouve les occasions d'être particulièrement réjouis. Parce qu'il y a énormément de personnes qui, dans la vie, apportent quelque chose, vous entourent d'attention, de délicatesse, parfois, et vous donnent du courage. C'est tout aussi simple que ça. Il suffit de regarder et d'être attentif à la vie que mènent les autres. Et puis, on finit par avoir bien des occasions de se réjouir. On s'offre un regard nouveau.
Avez-vous pris l'habitude d'avoir quelques bergeries dans les Pyrénées, vous qui êtes, au dire de cet ami prêtre aussi, ami de la poésie des pâtures plutôt que des discours académiques?
C'est-à-dire quand je vais chez moi, effectivement, la nature est ma principale visite, celle que je fais durant les jours où je suis en vacances. Je ne passe pas une journée sans découvrir un chemin, une nouveauté, une randonnée que je n'avais pas faite, et obligatoirement on y croise aussi quelques personnes qui vivent là toujours dans des espaces qui sont infinis, si j'ose dire, et où parfois on peut passer même une journée sans rencontrer personne.
Voilà, alors Bernard Berthuis, on va essayer un petit peu de résumer votre vie et à travers vous peut-être un peu une partie de l'histoire de l'Église. Vous êtes originaire de l'Aubrac, magnifique région dans le centre de la France. Vous avez eu, semble-t-il, la vocation assez jeune, vous êtes d'une famille de 9 enfants, vous êtes le 6e. Qu'est-ce que vous diriez sur votre famille?
Oui, ma famille, si je puis dire, c'était une grande solidarité que l'on vivait tous ensemble pour la seule et unique raison, c'est qu'on n'était pas particulièrement riche dans ma famille et donc il fallait de temps en temps participer à différentes activités pour, j'allais dire, essayer d'aider maman et papa dans la responsabilité qui était la leur à notre égard.
Quelle était la profession de vos parents déjà?
Ma maman est restée à la maison, elle était tout simplement comme ça, avec 9 enfants. Et puis mon père était menuisier et un petit peu ébéniste à l'occasion. Et il était aussi, mais pour 2 heures par jour, professeur de technique dans une école tenue par des frères religieux. C'était là. Après nous, pour survenir aux besoins, on pouvait aussi bien aller aux champignons quand c'était la période pour les vendre et ensuite amener le petit pécule à la maison pour maman qui se permettait ensuite de pouvoir nous faire des petites occasions nouvelles de, comment on appelle ça, nous proposer des nouveautés dans le repas, dans le vestimentaire, que sais-je, bref, des petites choses.
Donc vous grandissez dans cette famille, vous êtes originaire donc de Saint-Chély-d'Apcher, c'est ça?
Oui, tout à fait. Oui,
en Haute-Lozère plus précisément, on appelle les habitants les Barabans, voilà tout un programme. Et vous avez la vocation assez jeune, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce désir de devenir prêtre?
Ah ben tout simplement, d'abord, la fréquentation en tant qu'enfant de cœur des prêtres, qui à Saint-Chély, pour 5000 habitants, il y avait un curé qui est trois vicaires, et le contact avec les vicaires, c'était beaucoup de joie, beaucoup de bonheur de les voir vivre, et de les voir, ils venaient souvent à la maison aussi. Bon, tout ça, petit à petit, je trouvais que c'était pas inintéressant d'avoir une vie donnée de cette manière-là. Et en même temps, d'être donné aux autres et au Christ et à Dieu. Alors, comme j'étais d'une famille religieuse, on allait à la messe tous les dimanches, même s'il m'est arrivé une fois de ne pas y aller, je vous garantis que j'ai été pas puni, mais j'avais aidé mon père le matin, c'était un fameux alibi qui coupait du bois. Et l'après-midi, je devais aller au cinéma voir Cro-Blanc, un film, un tout petit film comme ça. Et bien, mal m'en a pris parce que ma mère m'a dit à midi, hein, pas de messe, pas de cinéma.
Est-ce que vous pouvez nous raconter la première fois où vous avez parlé de votre vocation? Vous m'avez raconté que c'était à l'une de vos sœurs.
Voilà. Ma mère a été descendue à la rivière. Je dis bien descendue, c'était une pente rude pour aller laver le linge à la rivière. Et avec ma sœur Josette, qui n'est plus là malheureusement, nous descendions la pente pour aller lui donner un coup de main afin de remonter le linge mouillé. Donc avec beaucoup plus de difficulté, une brouette. Et là, en descendant, j'ai dit à ma sœur Josette, j'aimerais bien être prêtre. Et donc, c'est de là que c'est parti. On en a discuté en famille. Ma mère était ravie que dans ses enfants, il y en ait un qui se donne au bon Dieu, comme elle disait. Et donc, petit à petit, tout s'est mis en place pour que je puisse commencer les études dans un petit séminaire de Lozère qui s'appelait, on appelait un alumna, un lieu pour les nourrissons, si ça s'appelait.
Tenu par les pères assomptionnistes.
Par les pères assomptionnistes.
Comment vous résumeriez la vocation de prêtre, en fait? Quel était votre désir le plus profond quand vous étiez jeune garçon comme ça? En fait, ça voulait dire quoi, devenir prêtre?
Pour moi, c'était de faire découvrir aux gens toute la richesse de la vie de Jésus et ce qu'il nous avait apporté avec regard et mire principale, tout ce qui relevait de l'amour du Christ, et plus particulièrement qui nous mène à la résurrection et à une vie nouvelle. Et qu'il fallait donc commencer à la vivre dans le quotidien, surtout en tant que prêtre.
Donc vous rentrez dans cette alumna, comme vous dites, chez les pères assomptionnistes, qui était une sorte de petit séminaire, puis ensuite au petit séminaire à Toulouse, et après au grand séminaire. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire vous êtes ordonné donc à Saint-Chély-d'Apcher le 17 décembre 1967. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette période de l'Église pour tous ceux qui ne l'ont pas connue? À quoi ressemblait la France et l'Église de l'époque, peut-être avant 67, je veux dire avant le Concile Vatican II?
Oui, mais c'était toute la vie des Français était rythmée aussi par la vie religieuse, par les fêtes tenaient une place extraordinaire. Par exemple, l'été, dans nos petits villages, il y avait une fête partout. Et puis il y avait un petit peu, comment dirais-je, surenchère. On essayait de faire mieux que le voisin, etc. Et puis en même temps, il y avait toujours, par exemple, une messe dans une fête locale. Et les gens, le maire, tout le monde venait, c'est pour donner un exemple, voilà, c'était ainsi. Puis il s'est trouvé que petit à petit les choses ont changé, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, la foi et la vie religieuse tenaient une place originale et assez forte. La pratique religieuse était importante.
Assez rapidement, donc, enfin, dès les débuts, donc, vous êtes nommé pour le diocèse de Toulouse, vous êtes envoyé à Saint-Béat, donc dans les Pyrénées, puis à Revel. Sur Saint-Béat, est-ce que vous voulez dire quelques mots sur ce passage dans les Pyrénées?
Ça a été relativement rapide, j'y ai passé 9 mois, le temps d'une gestation, presque pour être pris pour
Revel. On s'est dit qu'un prêtre venu de l'Aubrac saurait s'y prendre avec...
Mais c'était l'idée, oui, qui s'était faite.
Des bergers.
Voilà, ceux qui avaient fait la nomination avaient dit, oh, il est de la montagne, il va bien se trouver dans les Pyrénées. Je suis tombé dans un endroit radical, laïque, dans la région là-bas de Saint-Béat et tout ça. c'était absolument pas du tout l'image de ce que mon pays donne habituellement, où effectivement les fêtes religieuses primaient même sur la vie tout court.
Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire de caravane qui aujourd'hui, ceux qui se prêtent à ce type d'exercice apostolique sont qui se considéraient comme des gens extrêmement radicaux dans la mission et parfois un peu excessifs. Vous alliez de village en village en caravane.
Mais il se passait, oui, c'était le curé, mon curé, quoi, le père Pichelou, qui est décédé aussi, eh bien, avait acheté une caravane pliante qu'on mettait en place dans les villages de montagne où on n'allait que très rarement, argue dessus, argue dessous, mêle pour les gens qui connaissent un peu le coin. Et on y passait une semaine avec eux. Et c'est moi qui allais à leur rencontre.
Donc vous faisiez quoi, du porte-à-porte, c'est ça?
Oui, je les visitais, tout. Et c'était pas toujours très facile. Il fallait souvent trouver une place et se faire accueillir. C'était pas évident. Il y avait, par exemple, je sais pas dénigrer ces gens qui étaient des pauvres gens. On vous offrait à boire. Vous avez là un verre qui a servi d'innombrables fois et qui vous était donné tel quel. J'ai jamais été malade pour autant, mais je veux dire, c'était les gens pauvres et il fallait les aimer quand même, hein, parce que je crois qu'ils étaient souvent dans des situations difficiles.
Le père Bernard Berthuis, donc, qui a fait du porte-à-porte et qui a été en caravane dans les villages. Voilà, je le dis quand même, hein, parce que aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Et puis même, j'ai dit une messe à la Bâche de Mel. C'est un coin perdu au pied des montagnes. Et il y avait quand même 18 personnes, ce qui représentait 50% de la population.
Alors ensuite, vous êtes nommé à Revel. On va pas faire tout le détail de votre vie apostolique, mais c'est pour en dire les grands traits. Vous vivez une aventure apostolique un peu particulière puisque vous êtes nommé à plusieurs, à quatre prêtres, pour accompagner une paroisse et des mouvements de l'action catholique rurale. Donc vous avez eu, dès le début de votre ministère, au regard peut-être du milieu duquel vous veniez, puis d'une attention de cœur, voilà, le désir particulier d'accompagner quoi, les milieux populaires, vous diriez ?
Oui, tout à fait. Et puis en même temps, les jeunes du rural, le mouvement rural de la jeunesse chrétienne, le MRJC, était très actif un peu partout.
Qui irriguait toute la France. Hein, c'est...
Ah oui, à l'époque, c'était très important. Ça venait de la JAC, qui avait déjà été la jeunesse agricole chrétienne, avait tenu une place très importante. Bien réfléchissant avec eux, et la plupart étaient sans travail, ou il y avait à la ferme, par exemple, des fois 8, 10 enfants, et il fallait essayer de trouver des solutions pour que ces familles s'émancipent un petit peu sur le plan matériel, quoi.
On sait qu'en tout cas, ces mouvements d'église ont énormément travaillé à la scolarisation dans les campagnes, à l'accompagnement pour les études, pour trouver du travail.
Tout à fait, tout ça, oui. Et en même temps aussi, pour ce travail, c'est avec des jeunes qu'on a démarré une entreprise coopérative.
Alors justement, dites-nous, on sait que c'est, enfin, pour ceux qui vous connaissent un peu, que c'est quelque chose dont vous êtes particulièrement fiers. Racontez-nous l'aventure de cette société coopérative et, enfin, pourquoi vous avez... Quelle était cette aventure?
Eh bien, ça a été à une époque, bon, où avec les jeunes, on avait donc réfléchi des problématiques de chômage et avec quelques laïcs.
Peut-être quelle était la situation? C'est-à-dire qu'il y avait des familles entières qui n'avaient pas de travail, c'est ça?
Ben, c'est-à-dire que dans les fermes où il y avait beaucoup d'enfants, il y avait des jeunes qui étaient sans travail ou qui ne voulaient pas rester non plus éternellement à la ferme ou devenir agriculteurs. Donc, ils avaient fait quelques études et certains ne trouvaient pas de travail. Et c'était un petit peu le lot commun d'être dans des familles assez, assez importantes. Et là, on les réunissait une fois par mois et c'était l'occasion de discuter. Et petit à petit, à force de discuter, on se dit « il faut passer aux actes ». Et c'est comme ça qu'on a cherché une solution pour inventer une entreprise qui puisse se permettre, j'allais dire, le meilleur épanouissement possible. Et dans une coopérative ouvrière comme ça, eh bien, il y a la possibilité de devenir et salarié, certes, mais aussi sociétaire de son entreprise. Et c'est là où la différence se fait, parce que quand on est sociétaire de son entreprise, on est responsable aussi de son devenir.
Et société qui s'est développée après?
Oui, elle s'est développée progressivement, ça n'a pas été facile, avec un de mes amis, justement, que j'ai connu plus tôt après quand j'étais à Blagnac, et qui lui a pris en charge l'entreprise, s'appelle Jean-Luc Candelon, et ils sont passés progressivement de 7-8 jusqu'à aujourd'hui où ils sont 3500 en France, ils ont racheté plein d'entreprises qui étaient en difficulté. Le seul regret que j'ai, c'est que Ces entreprises ne sont pas encore toutes passées en coopérative et il ne faudrait pas que des coopératives exploitent d'autres entreprises non plus.
Alors l'autre grand fait d'armes de votre vie, évidemment en dehors de votre vie pastorale, qui est, on l'imagine bien, première, c'est donc d'avoir créé Radio Présence. Peut-être pouvez-vous nous raconter comment ça s'est fait tout simplement et puis à quoi ressemblaient les débuts de l'aventure. C'était donc à Blagnac,
oui,
en proche banlieue toulousaine.
Ah ben c'était tout simple, on s'était imaginé un truc curieux. On avait des difficultés avec les parents des enfants du catéchisme pour les réunir. Alors certains participaient aux rencontres et d'autres on ne les voyait pratiquement jamais. On se demandait comment ils pouvaient eux aussi transmettre un peu la foi à leurs enfants. Et comme on n'y parvenait pas, on s'était dit, puisqu'il y a un peu des radios vont être créées, eh bien, on va faire en sorte que les parents aient soient informés par les ondes, s'ils veulent pas venir aux réunions, par la radio, pour pouvoir participer un petit peu à l'éducation religieuse de leurs enfants. On était parti sur cette idée-là. Mais c'est que tout de suite après, on a été confronté à d'autres réalités. Les fréquences n'étaient pas nombreuses. La tentation était de la part de l'organisme d'État, de l'organisme d'État d'imposer deux associations différentes sur la même antenne en partageant le temps, etc. Ça devenait très compliqué. Et il a fallu qu'on se batte pour obtenir une fréquence entière. Avec un désagrément qui en est arrivé, et c'est simplement qu'on a été obligé d'utiliser donc toutes les heures de la journée et de faire de la radio tout le temps. Et on a accepté un peu des amateurs et on a eu quelques surprises, des jeunes qui nous passaient des disques pas très quelque peu olé olé et tout ça. Et donc il a fallu attendre, j'allais dire, un incendie criminel pour que nous repartions avec d'autres bases et avec l'aide du diocèse et donc avec quelque chose qui devenait une affaire ecclésiale.
Vous avez été donc directeur de cette radio, Radio Présence, pendant 10 ans. Et ensuite, donc, vous avez été 27 ans donc, à l'église Saint-Nicolas, qui est dans le centre-ville de Toulouse. Le propos n'est pas forcément d'être exhaustif sur l'ensemble de votre vie. Quel souvenir vous gardez, peut-être avant qu'on fasse une première pause, de toutes ces années je sais que vous avez beaucoup, beaucoup travaillé, j'allais dire presque à vous tuer à la tâche, pour Radio Présence. Comment vous partageriez
C'était simple. Le soir, ça devait être minuit ou tout au moins 11 heures du soir. Et le matin, on se relevait et je me relevais vers 4 heures. On était quelques-uns qui se levaient pour faire une information le matin à partir des journaux, de la revue de presse, à laquelle on donnait une importance très grande parce que c'était les outils que nous pouvions avoir. Et puis, ça faisait 4 heures et demie, 5 heures de sommeil. Et quelquefois, le week-end, j'avais la chance de pouvoir aller célébrer la messe avec les collègues. Et d'autres fois, je faisais ça in privatim, comme on dit. Parce que, à un moment où j'étais pas toujours avec la lucidité, la volonté non plus, parce que j'étais fatigué, tout ça. Ça a été très dur, oui.
Bernard Berthuis, tranche de vie d'un prêtre donc qui a fêté ses 50 ans de sacerdoce, fondateur de Radio Présence, et un petit livre est paru, on va en parler après cette pause, un petit livre est paru qui est une compilation de certaines de vos homélies qu'on va parcourir, Chemin buissonnier en écriture.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Bernard Bertuis, une vie de prêtre, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église ce matin. Prêtre du diocèse de Toulouse, curé de la paroisse Saint-Nicolas et fondateur de Radio Présence qui a fêté son jubilé d'or à la fin de l'année dernière, en décembre 2017. Voilà, figure de prêtre ici dans le diocèse et en tout cas ami de la radio. Je me suis dit dans cette deuxième partie qu'on allait parcourir donc ce petit ouvrage « Chemin buissonnier en écriture » qui, pour rappel, donc, est une compilation de certaines de vos homélies, voilà, qui a été organisée avec affection et tendresse par ceux qui vous aiment bien et qui ont été nourris par toutes ces homélies. J'en ai choisi quelques-unes. La première, quelques extraits. La première est intitulée, voilà, qu'il faut que je retrouve, Vive le roi. Dans cette homélie, vous parlez entre autres du face-à-face entre Jésus et Hérode, vous avez ces phrases sur la question de la royauté. Vous avez ici deux conceptions de la royauté, donc vous nous expliquerez ce que vous voulez dire par là, hein, et du pouvoir. L'une prend la vie et il est mille et une manières de vous l'ôter, l'autre vous donne la vie et il est mille et une manières de la donner. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux royautés, celle du monde et celle du royaume de Dieu?
Eh bien, d'abord, le comparatif avec Hérode est assez significatif, parce que Hérode s'était fait bâtir des châteaux, si j'ose dire, qui étaient particulièrement protégés. Il y avait plusieurs ancêtres avant d'arriver là où il vivait, parce qu'il craignait toujours qu'on allait le tuer, etc. Mais il a tué des frères en lui, et des épouses. Enfin bref, c'était pas du tout ce qu'on devait attendre d'un roi, c'est plutôt le service de son peuple. Et le Christ, lui, a été la démarche totalement inverse, que l'on voit notamment, ne serait-ce que dans le lavement des pieds, où il est aux pieds des apôtres et il leur lave les pieds pour signifier que le véritable roi est serviteur. Le plus grand parmi vous se fera votre serviteur, dit-il. C'est la grandeur, la véritable celle qui nous met au niveau des autres. C'est celle qui est le service, qui nous met à leurs pieds, en quelque sorte.
Est-ce que c'est pas quelque part la mission du prêtre ou le combat du prêtre d'une vie que de travailler à cette inversion des valeurs, c'est-à-dire de passer du royaume des royaumes de ce monde en fait au royaume de Dieu?
Ah, tout à fait. Moi, je pense que si on n'entre pas dans une démarche d'humilité, parce qu'on a quand même, on peut utiliser un certain pouvoir, si j'ose dire, ce qui, à mon avis, ne commence à être véritablement utile que dans la mesure où il devient service. Et ça, c'est très très important. Le prêtre doit être d'abord serviteur. C'est textuellement dit dans les textes d'ordination aussi. Donc ça me paraît très important.
La deuxième homélie s'appelle « Au nom du Père » et vous revenez sur la parabole du fils prodigue. Vous me disiez en préparant l'émission que c'est un passage de l'Évangile qui pour vous est qui vous tient particulièrement à cœur. Alors c'est aussi un peu un des cœurs de l'Évangile. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous touche particulièrement ou pourquoi est-ce que vous aimez beaucoup cette parabole du fils prodigue? Peut-être en rappelant de quoi il s'agit rapidement.
Eh bien, tout simplement, vous connaissez l'histoire du fils prodigue, du moins je l'espère. Un enfant quitte la maison, il part, il gaspille l'héritage que son père lui a donné, puis il se retrouve misérablement à s'occuper de porcs, et puis là, il revient sur lui, et il se dit, il vaudrait mieux quand même que je retourne chez mon père. C'est un peu caricatural ce que je dis là. Et donc, retourner vers le Père. Et Jésus nous apprend que ce Père, c'est Dieu d'une certaine manière. Et d'apprendre tout à coup que ce n'est pas le potentat qui ressemble à ceux qui dirigent les affaires terrestres des hommes, eh bien moi personnellement ça me réjouit beaucoup. Parce que je sais que je peux aller à lui tout simplement en enfant avec ce que je fais de bien mais avec ce que je fais de mal. Et en me disant que lui va comprendre et m'aider à grandir dans l'amour. Parce qu'il aura une attention pour moi, parce qu'il voudra que son fils, eh bien, donne le meilleur de lui-même. Et voilà pourquoi le fils prodigue est quelque chose d'important. On peut tuer le veau gras quand on arrive chez son père. On peut être pardonné, recevoir un habit de fête, etc. Tout simplement parce qu'un cœur de père, c'est aussi large que l'univers entier quand il s'agit de Dieu.
Est-ce que c'est pas une folie, Bernard Berthuis, aujourd'hui de tenir de tels propos? Dans le monde dans lequel vous avez grandi, en France, on croyait en Dieu, on avait cette image peut-être de Dieu, ou vous me corrigerez. Mmh. Aujourd'hui, on est dans un pays qui est quand même globalement athée, et dire que Dieu existe et qu'en plus il serait ce père qui court à la rencontre de son fils alors que son fils a dilapidé son héritage, on se dit, bon, c'est des belles histoires.
Tout à fait, mais on sait très bien qu'à partir du moment où les gens prennent la mesure même de leurs limites, parce que tous en ont là, le problématique, c'est que peut-être dans notre monde, on ne sait pas prendre le recul nécessaire pour se dire « où en suis-je de ma vie ?». De temps en temps, c'est bien de se poser ces questions, ne serait-ce que pour se dire qu'on vit des choses merveilleuses auprès de sa famille ou des amis, mais aussi dans d'autres circonstances, eh bien, on fait des erreurs, on fait aussi un certain nombre de méchancetés. Quelquefois, il se passe des choses qui rompent les liens avec des autres. Et comment faire si on ne prend pas le recul nécessaire et le silence indispensable pour se dire « mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» L'important est de savoir, par rapport à tous les commandements et tout, de se dire une chose, c'est un d'elles qui le pense, il faut dire quel type d'homme, d'humain je veux être, et à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout pour me débarrasser de ce qui en moi, eh bien, ne correspond pas au projet que j'ai de l'être que je dois être. Et je deviens, comme disent un d'elles, origine et création de moi-même d'une certaine manière. Et ça, c'est important, parce que dans le monde d'aujourd'hui, on n'entend pas recevoir de leçons de l'extérieur. Mais moi, je dis, c'est un projet. Quel type d'homme voulez-vous être et quel type d'homme vous allez devenir? C'est vous qui le saurez.
Vous citez Maurice Zindel, il y a une autre homélie qui s'appelle « Tendre les bras », où vous parlez des plus pauvres. Enfin, en tout cas, vous laissez parler Maurice Zindel. J'ai entendu dire que vous aviez été un prêtre et un homme qui a toujours été très attentif aux plus pauvres, et que même à l'église Saint-Nicolas, il fut un temps, peut-être est-ce encore le cas, où on va dire tous les gens en difficulté, et entre autres les sans-domicile fixe, du quartier et au-delà, avaient l'habitude de pouvoir venir.
Ils y viennent toujours.
Parce qu'ils savaient qu'ils avaient une porte ouverte et plus si besoin. Vous dites, vous faites parler Maurice Zindel, donc ce prêtre mystique suisse du XXe siècle, voilà, très, très aimé et très connu, en tout cas de certains, à découvrir. Vous lui faites dire la chose suivante, enfin, vous faites cette citation, « La grande douleur des pauvres, c'est que personne n'a besoin de leur amitié. » Et puis un petit peu plus loin, parlant d'une femme, « Le travail où elle s'use ne suffit pas à faire vivre les siens, cet échec la livre aux autres. Elle doit accepter les secours qui font intrusion dans sa misère et en violent le secret. Le plus dur cependant est de n'être plus que ce faisceau de besoins matériels derrière lequel une charité expéditive ne percevra jamais l'agonie de l'esprit. » À lire en fait ce passage de Maurice Zindel, on sent que vous comprenez de l'intérieur en fait l'humiliation que c'est que d'être pauvre. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
J'aime beaucoup ce que dit le pape à cet égard. La pauvreté, c'est un outrage. Et je pense que quand on le ressent comme tel, eh bien, on ne peut faire autrement que de prendre acte de ce que vivent les autres, et plus particulièrement les pauvres et les petits. Et ce que j'ai remarqué chez eux, notamment en lisant un livre de Marie-Claire Caillot, sur la pauvreté. Elle disait comme ça qu'elle avait des difficultés avec l'une de ses voisines.
Marie-Claire Caillot, c'est donc une femme engagée au sein de Thédé Carmonde.
Une femme à Thédé Carmonde, oui, excusez-moi, je ne le disais pas, oui. Eh bien, ce qui était intéressant, c'est de voir cette personne-là ne pas s'occuper des enfants comme il faut. Ils étaient sales, ils n'étaient pas propres, ils faisaient un peu n'importe quoi, etc. Et elle devait partir, et elle ne pouvait pas faire autrement que de trouver quelqu'un pour garder son fils pendant qu'elle allait chez le médecin. Elle a hésité, puis cette femme lui avait proposé de garder son fils. Elle lui a confié, avec certes des craintes au cœur, mais avec l'idée que c'était bien de le faire. Et effectivement, cette femme s'est très bien occupée de ce bébé, de son bébé. Et quand elle est revenue, elle n'a rien eu à dire et à que se réjouir de savoir que cette femme lui avait dit comme ça, « Enfin, aujourd'hui, eh bien, j'aurais fait quelque chose pour les autres. » Et je crois que les pauvres sont souvent dans la situation où ils ne peuvent pas faire quelque chose pour les autres. Et il me semble que l'humanité, ou une part de l'humanité, est justement de pouvoir donner et se donner. Zindel a une phrase pour dire « se donner, c'est un acte divin ». Parce que le Christ s'est donné, et nous, en nous donnant aux autres, nous posons une démarche divine. Nous atteignons le lieu et le lien qui fait véritablement la résurrection, l'amour qui donne vie.
Autre homélie, vous l'avez intitulée « À toute trèfle ». Dans cette homélie, vous faites comme beaucoup d'autres aujourd'hui, le constat qu'on a énormément de moyens de communication, mais qu'on a quelques difficultés parfois à se comprendre, même dans son entourage propre. Bref, qu'il y a là un paradoxe contemporain assez important. Je pense que ça parlera à beaucoup de monde. Et vous dites que, alors en souriant, on a l'impression, en tout cas au regard du titre que vous choisissez, que la solution serait quelque part dans la découverte du Dieu trinitaire. Alors expliquez-nous cette relation entre ce Dieu trinitaire, ce trèfle, et cette béance en matière de communication qui s'ouvre dans notre monde moderne.
Bon, Saint Jean, en disant que Dieu est amour, signifie clairement que ce Dieu, il est comme en relation, déjà en lui-même. Et les relations, Père, Fils et Saint-Esprit. Trois personnes. Mais imaginez, le Père et le Fils sont en train de se regarder dans le blanc des yeux. Eh bien, l'Esprit Saint, j'allais dire, est là pour leur dire, vous pourriez peut-être élargir la dimension de votre amour en regardant de mon côté, par exemple. Simplement pour dire qu'en Dieu, la relation n'est jamais figée, elle est toujours ouverte sur un extérieur, elle est toujours ouverte sur un autre. Ce qui fait qu'en amour, la plénitude existe. Après, on fait la comparaison pour les couples avec les enfants, pour donner une image plus facile à comprendre, mais à partir de ce moment-là, le Dieu devient communication aussi. C'est-à-dire, il se dit, et on voit à travers la présentation qui est faite de la Trinité, à travers la Bible, ne serait-ce que pour la création, on perçoit très bien cette communication qui se fait. Le Père et le Fils échangent sur la création proprement dite. Et à un moment, curieusement, dans le premier chapitre, il est dit « faisons l'homme ». Il parle au pluriel « faisons l'homme ». C'est-à-dire que ce Dieu se prend à se dire ensemble qu'il a quelque chose d'important à réaliser. Et ça, c'est l'affaire des trois. C'est l'affaire de Dieu.
Et pourquoi ce parallèle avec le paradoxe contemporain de cette société de la communication et
tout simplement,
cette société de l'individualisme?
Tout simplement parce que dans ce monde-là, on travaille, on marche dans un rythme binaire. On ne pense qu'à soi et aux autres, directement ceux qui sont concernés avec moi, les miens, mais ceux qui, avec qui je me trouve bien, qui se ressemblent, s'assemblent, etc., etc. Alors qu'à partir du moment où on se trouve confronté à une démarche qui nous sort de nous-mêmes, parce qu'il faut sortir de soi, à oublier son ego pour pouvoir aller à la rencontre des autres en vérité et en efficacité aussi.
Dernière homélie que j'ai choisie, elle s'appelle « À la folie ». Entre autres, vous citez ce passage de l'Écriture, alors là vous le citez très rapidement, peut-être que vous pourrez le compléter. « Si tu donnes un déjeuner, invite des pauvres et des estropiés ». C'est un passage de l'Évangile donc où Jésus invite ses disciples, enfin tous ceux qui essayent de le suivre, hier comme aujourd'hui peut-être, à cette invitation très radicale. Voilà, en gros, n'invite pas ceux qui te rendront quelque chose, invite les pauvres et les estropiés. Je l'ai choisi à dessein parce qu'il y a bien souvent des passages de l'Évangile face auxquels on peut se trouver un peu mal à l'aise parce qu'on dit, on se dit, bon là Jésus va trop loin, ça c'est, moi j'y arrive pas, etc. Est-ce que vous avez essayé de pratiquer ce passage, d'inviter les pauvres et les estropiés à votre table, et qu'est-ce que vous diriez quant à la fécondité de cette parole et de cette invitation?
Mais c'est assez rigolo parce que ça m'est arrivé un jour de recevoir à table, parce qu'ils s'étaient prévenus, une petite panoplie de gens qui venaient au presbytère à Saint-Nicolas. Et on s'est retrouvés, je sais même quel était le menu, on avait fait du bœuf en daube et des pommes de terre pour aller avec, etc. Et il y avait différents personnages qui étaient là. Il y en avait qui parlaient pas. Il y en avait un qui était rigolo, qui est décédé malheureusement dans la rue, et qui était tout joyeux. J'avais jamais vu un sourire pareil, d'être à table, de bien manger, d'être avec d'autres, de sourire, et tout. C'était quelque chose d'absolument fabuleux. Et moi, personnellement, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses qu'on a pu faire après, pas nécessairement toujours en accueillant au presbytère, mais en accueillant dans les salles du presbytère, de faire en sorte, il y a des brunchs qui se passent maintenant par l'association qui s'est mise en place après avoir eu des boires avec une association qui gérait un petit peu ces moments.
Bernard Berthuis, une vie de prêtre, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce jour. Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause et puis après on va vous retrouver. Vous allez nous parler un peu du pape François. Voilà, qu'est-ce que vous pensez du pape François ? On va dire que c'est une figure dans l'Église, bien qu'il soit le pape qui aujourd'hui est aimé de manière contrastée par les catholiques. Ou alors chacun y pioche peut-être ce qu'il a envie d'entendre ou de garder de ce qu'il dit. Et puis un petit peu votre regard sur l'Église de France, entre autres en faisant écho à un ouvrage auquel vous avez été sensible, même si vous n'y avez pas participé directement, qui est paru récemment à Toulouse, Espérez quand même, on va dire des prêtres de votre génération qui partagent leur expérience pastorale et puis qui poussent un petit peu un coup de gueule face à une église qu'ils voient arriver dans laquelle ils ne se retrouvent pas toujours.
Présence dans la vallée de la Garonne, 97.9. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Bernard Berthuis, une vie de prêtre, prêtre du diocèse de Toulouse, curé de la paroisse Saint-Nicolas à Toulouse, fondateur de Radio Présence, qui fête son jubilé. Donc c'est l'occasion de donner la parole à ce prêtre, voilà, d'essayer de partager une tranche de vie et une tranche de vie d'un prêtre de sa génération. Dans cette dernière partie d'émission, on s'est dit donc qu'on allait parler un petit peu du pape François, je le disais. le pape François est à la fois très aimé. Parfois, on dit qu'il est plus aimé à l'extérieur de l'Église qu'à l'intérieur, en rigolant un petit peu. En tout cas, il est aimé de manière assez contrastée, parfois pour des raisons très, très différentes. Vous, quel est votre regard sur le pape François? Est-ce que vous considérez qu'il est une bénédiction pour l'Église et pour le monde, Bernard Berthuis?
Ah oui, je le pense vraiment. Et puis,
et pourquoi,
pape,
bien sûr?
Ce pape, je le trouve particulièrement intéressant pour la force et la simplicité de son message, déjà, qui est très en lien avec les questionnements de notre temps. Je le trouve très évangélique. Là, par exemple, l'année de la miséricorde a été quelque chose que je trouve d'essentiel pour arriver à ce que tous, autant que nous sommes chrétiens, nous ayons à cœur d'accueillir les autres avec toute cette bonté que la miséricorde suppose. Et sa grande bonté au pape lui-même, le fait, à mon avis, qu'il soit fait de tendresse pour les malades, les handicapés. Et cette phrase qu'il dit, qu'il a dit, « Mes gens sont pauvres et je suis bien des leurs ». Et je trouve qu'il est très évangélique. Et je pense que personne n'a le droit de reprocher à quelqu'un d'être très évangélique.
Qu'est-ce que vous retiendriez de son pontificat, les grandes, on va dire, déclarations marquantes ou les grands événements qui vous ont frappé, qui pour vous disent un petit peu ou colorent la couleur de ce pontificat?
Le discours et vœux à la Curie notamment, où il y a une forme de remise en cause et de procéder pour essayer d'avancer.
Donc il avait adressé à la Curie donc un message assez, on va dire, assez vert. Je crois que c'était décembre 2014 où il avait nommé les 12 maladies de la Curie.
Voilà. Tout à fait, oui. Puis le Conseil de l'Europe, je pense que ça aussi, il y a eu des choses qui ont été dites pour le lien avec le monde et puis pour les responsables qui assument les affaires terrestres.
Alors c'est pareil, je me permets de préciser, donc le pape François qui a de multiples reprises s'est adressé à l'Europe, qui a même reçu le prix Charlemagne, qui est un peu, on va dire, le prix Nobel de l'Europe, pour faire très court, et en tout cas en 2014, qui devant le Parlement a appelé l'Europe à retrouver ses valeurs humanistes. L'heure est venue de construire ensemble l'Europe qui tourne non pas autour de l'économie, mais autour de la sacralité de la personne humaine, des valeurs inaliénables. Quel est, parmi les autres événements, je crois que vous avez retenu cette phrase « Qui suis-je pour juger ?» à une question qui lui était posée sur les personnes homosexuelles. Est-ce que vous pouvez nous expliciter pourquoi vous avez reçu cet événement?
C'était quand il revenait d'Amérique latine, autant que je me souvienne. Il a dit dans l'avion à quelqu'un qui lui posait une question sur les homosexuels, il a dit « Mais qui suis-je, moi, pour les juger, les homosexuels ?» Et je trouve que d'une manière concrète, la première des choses à faire quand on rencontre des gens, c'est d'essayer de les comprendre déjà dans une première démarche, une démarche pastorale, que d'être attentif aux autres. Nous ne pouvons pas passer notre temps à condamner. D'abord, Jésus le dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Je pense qu'il faut laisser ce soin à Dieu de voir un peu plus clair et il aura certainement plus d'éléments que nous pour pouvoir juger les autres. L'important, effectivement, c'est d'être accueillant à leur vie et aux personnes, et d'échanger avec eux, et de vivre avec eux, j'allais dire, des relations simples et des relations respectueuses.
L'autre événement que vous avez choisi, c'est lorsque le pape s'est rendu à Lesbos. Donc on sait que le pape François, parmi ses grandes préoccupations, c'est l'ouverture de l'Europe à l'accueil des migrants, et ça n'est pas sans poser de questions, y compris un certain nombre de catholiques. Il s'était rendu donc en 2016 dans le camp de Moria, donc sur l'île de Lesbos, symbole du durcissement de la population, des positions européennes quant à l'accueil des migrants, puisque là-bas, il y a un certain nombre de camps de migrants. Il avait eu cette phrase « Nous sommes tous des migrants », et il avait ramené au Vatican trois familles de confession musulmane d'origine syrienne. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet événement?
Mais tout simplement parce que on pourrait aussi inviter les Syriens et le demander après à l'ensemble des paroisses d'Europe de faire la même démarche. C'était inévitable pour lui et bien de mettre en pratique ce qu'il préconisait. Et il l'avait préconisé avant. Et donc, il l'avait mis en œuvre. Je trouve, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entrent dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté du Père. Et je pense que là, on a la réponse. Et Dieu se, le pape se met en lien avec Dieu en faisant ce que Dieu lui demande. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais étranger, vous m'avez accueilli.
Pour finir, j'aimerais qu'on parle un petit peu donc de cet ouvrage, Espérer quand même, cet ouvrage donc qui est paru à Toulouse. Un certain nombre de prêtres de votre génération, d'ailleurs le surtitre c'est « De Vatican II au pape François, mémoire de prêtres et de laïcs », ont voulu partager leur expérience pastorale et aussi pousser un coup de gueule, parce qu'ils ne se retrouvent pas dans l'Église, une partie de l'Église en tout cas, qui aujourd'hui voit le jour et de plus en plus en responsabilité. Il y a un propos introductif de Monseigneur Bernard Housset, évêque émérite de Montauban et de La Rochelle, qui, entre autres, dit la chose suivante: l'Église n'existe pas pour elle-même. Elle a sa raison d'être dans le service évangélique des personnes et des sociétés où elle est implantée, à moins de vouloir une Église forteresse. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, l'Église de France devient parfois une Église forteresse? Est-ce que ça vous chagrine?
Eh bien, je crains qu'à rentrer dans les forteresses, on ne regarde la vie et les autres que par des jalousies ou des miennes des meurtrières. Excusez-moi l'expression, mais on a l'impression que ce syndrome du château fort devient quelque chose de particulièrement grave. On ne peut pas vivre ainsi dans le monde, comme s'il s'agissait de passer son temps à se protéger ou à se réunir uniquement entre chrétiens sans jamais porter la bonne nouvelle sur la terre. C'est l'engagement que le Christ nous demande de prendre avant que de monter, j'allais dire, près de son Père lors de l'ascension. Aller enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et puis revenir en arrière à titre d'humour. Je vais dire simplement un certain nombre de choses qui au XVIIIe siècle étaient de la spiritualité. Alors vous allez sourire, mais il faut le prendre avec humour simplement. La tabatière spirituelle pour faire éternuer les âmes du côté de Dieu. Et la seringue mystique pour les âmes constipées en dévotion. Bon, il s'agit sans doute de pastiches ou de canulars, mais je pense que retourner en arrière, finalement, il est difficile de ne pas idéaliser le passé quand l'être aimé est mort.
À ce propos, quand même, c'est la question que j'avais posée à vos confrères prêtres à l'occasion de cette émission. Donc sur ce livre, Espérer quand même, je sais que c'est une émission qui avait plu de manière inégale, beaucoup à certains et beaucoup moins à d'autres. Est-ce que vous avez conscience que le monde dans lequel vous avez grandi n'est plus du tout en fait le même? Et que parfois l'Église aussi, ou la nouvelle génération, essaye de s'adapter ou d'être pasteur, pour parler des prêtres, au milieu d'un monde qui n'a rien à voir avec celui que vous nous avez décrit au début de cette émission, le monde de l'Aubrac et des familles de 9 enfants, oui. Où l'on était chrétien de père en fils.
Oui, mais tout à fait. Mais en même temps, je pense qu'il y a des choses qui relèvent de la comment on appelle ça, de la vérité simple. C'est de l'humilité. Un prêtre d'aujourd'hui qui change de paroisse, qui va dans une paroisse. Moi, je pense qu'il a tout intérêt à regarder pendant un an bien un petit peu ce qui se vit, d'échanger avec les gens, de voir avec eux, d'entendre ce qu'ils disent, les souhaits qu'ils formulent, etc. Parce que l'Église, c'est le peuple de Dieu, il faut donc que le peuple de Dieu soit associé aussi bien, j'allais dire, aux célébrations qu'aux projets et aux réalisations qu'une communauté peut faire. Ça me paraît important. Et puis, la franchise, c'est quelque chose d'important, et alors aussi l'esprit de pauvreté. Celui-là, il a des exigences, il offre la liberté, celle qui nous affranchit du moi et de l'attachement au bien matériel.
Pour finir, est-ce que parfois vous êtes inquiet de sentir certaines divisions au sein de, on va dire, du presbytérat, on va dire par exemple pour les diocèses que couvre la radio, ou est-ce des choses qui existaient de votre temps? On a l'impression qu'il y a un peu la génération que vous représentez qui se sent parfois pas très à l'aise, et puis la nouvelle qui se sent pas très à l'aise avec la vôtre, et tout ce monde qui est censé donner un visage d'unité finit par donner un visage aigre-doux. Est-ce que c'est pour vous une inquiétude?
Moi, je pense qu'il serait bon qu'il y ait la possibilité de se rencontrer, mais pour ça, il faut avoir la simplicité. Moi, je sais que j'ai fait des propositions une fois ou l'autre, et qui n'ont pas eu de suivi, mais qui ne sont pas été de mon fait. C'était de faire bénéficier une paroisse qui en a la possibilité, sur le plan artistique et culturel, de faire passer un certain nombre de choses. Et j'avais fait une création sur la Passion du Christ, en Blu-ray, donc avec une qualité télévision exceptionnelle, que j'avais mis dans mon église aussi, et où les gens ont beaucoup apprécié et prié pendant le temps du carême. Et je pense que je voulais en faire profiter pour qu'on en discute, pour qu'on essaye de voir un peu. Mais quand on ne se rencontre pas, on ne peut pas discuter.
Merci Bernard Berthuis d'être venu. Je rappelle donc le titre de ce petit livre, compilation donc de certaines de vos homélies, Chemin buissonnier en écriture. On en trouve à Toulouse à la librairie Siloé. Il coûte 8 €. Et dimanche qui suit la Pentecôte, vous fêterez donc votre jubilé avec les paroissiens. 50 ans de sacerdoce à la paroisse Saint-Nicolas. Merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église. Cette émission était réalisée par Rémi Souloumiac. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.